l'installation qui est là jusqu'à fin novembre. Je vais parler aussi avec Nathan Murray pour sa chronique Cinémania qui va me parler du film best-seller. Il va me faire un retour encore sur le Festival de films de Toronto et il va me parler des films à surveiller pour l'automne. Je vais parler avec Louis-David Gingras de sa chronique Artiste de la vie. On va parler de méditation et je vais finir l'émission avec Xavier pour sa chronique Le son dans le piton, l'émission du mercredi 22 septembre de Chérie J'arrive. Ça commence maintenant. Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chise 94.3. Vous écoutiez Ciel Bleu et c'est de l'incroyable band Bon Enfant. Ça va être sur l'album Diorama qui va être disponible le 1er octobre et je voulais vous faire écouter ça parce que il va y avoir un lancement qui a été annoncé. Il y a plusieurs spectacles qui ont été annoncés parce que aujourd'hui, le Pantoum a justement fait la promotion de ses spectacles qui vont avoir lieu en octobre. Ça commence dans 3 jours avec Beat Sexu In Situ. Ça va être un expo vidéo immersif. Donc justement, le 25 septembre, ça va commencer jusqu'au 3 octobre. Après ça, le 14 octobre, il va avoir Woof Woof Inc., ce groupe qui se considère comme un band de rock parental. Il y a entre autres leur chanson Dangereuse Vie qui a été partagée en primeur sur le site écoutedon.ca. Donc Woof Woof Inc. en spectacle le 14 octobre au Pantoum. Il va y avoir aussi, 2 jours après, le 16 octobre, Doudoudou. Là, tantôt, j'ai essayé de faire des recherches. J'ai pas plus d'informations. J'en jasais avec mes collègues de Chiz. On pensait peut-être que c'est You Do Right qui change de nom pour le bien de la cause. On verra bien. On va continuer de suivre ce dossier-là. Donc, le 16 octobre, Doudoudou. Suivi du 21 et du 22 octobre, il va y avoir Zouz, qui est une formation dont il y a David Marchand, qu'on connaît entre autres pour Mon Doux Seigneur, pour jouer dans des bands comme autour de Laurent Sand, de Alex Berger. Il y a le bassiste aussi, Étienne Dupré, pour, on connaît pour des projets comme Claude Pelgag, comme Lisande, comme Nicolet et plusieurs autres. Il y a le batteur Francis Ledoux qui, lui, travaille avec Jesse McCormack, Louise, Elena Deland. Donc, on a justement cette formation qui est on a du monde qui ont pas mal d'expérience derrière la cravate. Donc Zouz, c'est à voir. Ils ont 2 représentations, le 21 et le 22 octobre. Ça sera suivi par le spectacle du show de l'Halloween. Ça va être le 31 octobre et c'est Yoko Feu qui vont présenter entre autres Nuit Tropicale, mais ils s'en viennent avec un nouvel album après Les Enfants Sauvages en 2016. Eh bien, ils reviennent et c'est avec Pantoum Records que leur album sera justement disponible auprès du public. Donc Yoko Feu, entre autres avec Francis Rose qui est le chanteur, il y a aussi Maxime Drouin, Daniel Baillargeon qui eux sont des musiciens avec Violette P. On a aussi Pierre-David Girard, Félix Petit et Gabriel Godbout-Castonguay qu'on connaît tous ces trois derniers pour le projet évidemment de Les Louanges. Donc c'est à surveiller ce 31 octobre Yoko Feu au Pantoum et ça va se terminer le 11 novembre. Ben ça, c'est un petit spécial. Je vous ai dit que c'était le Pantoum qui annonçait leur spectacle de octobre. Ben là, ils vont en avoir un en novembre. Ça va être Ouri, celle... la DJ qui donne dans l'électronique et qui donne un peu aussi dans l'expérimental où elle a essayé quelque chose de nouveau avec Elena Deland et justement leur projet Hildegarde. Donc ça va être à voir absolument le 11 novembre au Pantoum et je suis super content de vous parler de cette nouvelle-là aujourd'hui parce que le Pantoum qui nous a nous avait présenté Pantoum Boutique, des petites vidéos, des live sessions, ceux qui connaissent le Color Show, ça ressemblait un peu à ça ou encore à les NPR Tiny Desk. Là maintenant on a des spectacles en présentiel, ça revient évidemment, il y a sûrement des mesures sanitaires qui vont être reliées à ces spectacles-là, à ces venues. Donc prenez vos billets, ça part comme des petits pains chauds, c'est très très populaire évidemment. Donc on va se laisser en musique maintenant avec Nuit Tropicale qui est le premier single de Yoko Feu qui vont être au Pantoum le 31 octobre 2021. Réservez vos billets. Au retour, je parle avec Philippe Philomène Lompré de Envolée Lyrique, qui est une installation qui relie la technologie, qui relie la lumière, le vidéo, l'art robotique, l'interactivité. On va parler de ça avec elle au retour à Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
tient une femme toute nue. Sa poche est d'un rouge absolu. Ses seins comme de pendule, crépusculaire.
Vous êtes de retour à Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. C'est maintenant le temps d'une entrevue avec Philomène Lompré qui va avoir une installation qui s'appelle Envolée lyrique et ça va être au studio TELUS du Grand Théâtre de Québec. On est ici aujourd'hui pour se parler de cette installation-là, de qu'est-ce qu'elle représente. Ben, tout d'abord, bonjour Madame Lompré.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va super bien. En fait, l'exposition, elle est déjà au Grand Théâtre. Présentement, le vernissage était mercredi passé. Ouais. Donc, vous êtes déjà, je vais vous en parler, mais il y a la semaine là, de la culture présentement. Donc, vous allez pouvoir, dès maintenant, aller voir l'œuvre.
Oui, tout à fait. Et c'est une œuvre qui va être disponible jusqu'à la fin décembre. Donc, ça va rester pendant un bon bout de temps. Cette œuvre qui, c'est une installation d'art robotique interactive. On a plusieurs trucs qui sont mis ensemble pour donner naissance à cette œuvre. D'où vient votre passion pour allier la technologie et les arts?
Oh! Bien, en fait, bon, je suis une artiste en art numérique. Mm-hmm. J'ai commencé dans les années en 99 à créer des œuvres système interactives. Et dans chacun de mes systèmes, on peut dire, bon, ça englobe à la fois la robotique, l'électronique, la vidéo, la performance et aussi le son. Mm-hmm. Donc, où est cette passion? Oh là là, on remonte à mon enfance.
On s'en va loin.
J'ai toujours été transdisciplinaire.
Ouais.
Et, j'ai étudié en art, au départ en art visuel. Donc oui, je suis une artiste en art visuel, mais j'utilise tous ces outils. Pour moi, c'est des outils comme un pinceau pourrait relier tous ces éléments. Donc autant une sculpture en mouvement que les images vidéo, le son et les gens aussi qui font partie de l'œuvre. Donc les visiteurs font partie de mes installations.
Donc, c'était pour vous votre façon de communiquer à travers l'art, c'est d'utiliser les technologies et vous parliez d'être une artiste transdisciplinaire. Donc, c'est de finalement jongler avec toutes ces disciplines-là.
Oui, c'est ça, on peut dire. Puis là, je peux vous parler un peu
de envolée lyrique, oui.
Envolée lyrique, parce que justement, il y a plusieurs composantes à cette exposition, à cette installation.
Oui.
Donc, il y a au studio de TELUS, un lieu vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le visiter.
Tout à fait.
Oui, alors on a le grand mur ouest, hein, mm-hmm. qui est de 51 pieds d'eau. J'ai une projection vidéo que j'ai fait d'un ciel pour évoquer le mouvement continu. Donc, il y a une projection sur ce grand mur. Mm-hmm. Par la suite, il y a 14 sculptures robotiques qui sont installées sur les palissades des balcons. On parle aussi de photos, donc j'ai des photos sur aluminium qui font partie des sculptures. Il y a des jeux de lumière, d'ombre, donc des projecteurs lumière sur ces sculptures. Il y a une interactivité entre l'intensité de la lumière et le mouvement des ailes, mm-hmm. de ces oies mécaniques. Et donc il y a aussi une bande sonore que j'ai réalisée, les vidéos bistrot et un système de capteurs. Donc ça, comme on peut voir, il y a plusieurs éléments, plusieurs composantes à cette installation qui prend sur 5 étages de haut là. Donc il faut se déplacer dans l'espace là pour.
Donc c'est vraiment quelque chose de monumental. On a quelque chose qui est vraiment 360 aussi, si je comprends bien, avec les balcons comme vous parliez de ce studio TELUS.
Oui, exactement. Puis j'invite les gens à aller surtout à la passerelle. Donc, il y a une passerelle sud, mm-hmm. monter les escaliers jusqu'au 5e. Même, si possible, amener des longues vues pour regarder chaque photo, chaque pièce. Est, comme je disais, là, est une pièce unique.
Mm-hmm.
Donc, oui, plusieurs angles de vue. Que c'était tout un défi de travailler dans ce lieu, mais en même temps, tellement inspirant comme mm-hmm. espace. C'est gigantesque.
Oui, ben tout à fait. Il y a plusieurs façons aussi de vivre cette œuvre-là, j'ai l'impression. On parle des oies, on parle de leur vol, des mouvements migratoires. Vous avez parlé aussi du ciel dans lequel ces oies voyagent. On a parlé d'art et d'inclure les technologies là-dedans. D'où est venue l'idée pour cette œuvre particulière de parler des oies, de leur mouvement? Et...
Mm-hmm. Oui, ben en fait... Bon, ça fait plusieurs années que je travaille sur ce projet-là. J'ai commencé au départ par une passion hein, de voir... bon, comment je pourrais dire? Tout d'abord, ces oies des neiges. Une passion pour les oies des neiges, mais surtout, on sait, hein, les grandes oies des neiges parcourent, donc passent sous nos têtes deux fois par année au printemps et à l'automne. Ils parcourent 4000 kilomètres hein, de l'Arctique jusqu'aux États-Unis. Puis moi, j'ai voulu les suivre durant leur migration. Donc, pendant plusieurs années, je les ai observés, documentés, filmés, j'enregistrais le son hein, sur le terrain, mm-hmm. Photographiés, ainsi de suite. Puis en 2018, j'ai eu la chance d'être témoin de 1,5 million d'oies, donc un regroupement de 1,5 million, c'était incroyable. Je veux dire, on voit même plus le ciel, là. Il y a le son, le battement des ailes. Donc, c'est à partir de ce moment-là que cette expérience que je voulais partager avec les gens, donc de voir, c'est un phénomène extraordinaire, tu sais, exceptionnel là, qu'on a ici. Donc, malgré les changements climatiques, les oies encore aujourd'hui font la migration. Il faut prendre, moi j'encourage les gens à prendre le temps de les voir passer, de justement les saisons qui passent et deux fois par année, on les accueille, on leur dit au revoir.
Mm-hmm.
Alors, ça a commencé un peu de ça au départ. Et là, par la suite, je cherchais un lieu. J'ai été sélectionnée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par un jury, pour réaliser un projet spécialement pour cet espace du Grand Théâtre de Québec. Donc, par la suite, il y a eu des prototypes, il y a eu vraiment plusieurs étapes avant de réaliser cette œuvre.
Ben justement, j'aimerais ça que vous m'en parliez des étapes qui sont arrivées à la création de cette œuvre-là. Évidemment, vous me parlez du studio TELUS qui est au Grand Théâtre de Québec, qui a une structure assez unique en son genre. Donc, vous avez sûrement visité les lieux au départ pour ensuite continuer d'avancer dans ces étapes-là?
Oui. Donc, j'ai visité les lieux en 2019.
D'accord.
Donc, en janvier 2019. Mais je connaissais l'espace. Donc, quand j'ai vu cette demande de dossier, là, c'était le lieu idéal pour ce lancement, donc la première de cette œuvre. Alors, il y a, comme je disais, les étapes de fabrication. C'est sûr que, bon, il y a la vidéo que j'ai filmée j'ai filmé le ciel pendant 2 semaines.
Quand même.
Oui, et puis pour faire un montage, afin d'évoquer le temps qui passe, donc les nuages, mais aussi il y a des ombres de ces oies mécaniques qui sont dans la pièce comme telle, donc ce vidéo. Après, bon, il y a l'aspect audio, il y a une composition sonore qui est liée à l'expérience que j'ai vécue sur place avec une composition de 30 minutes. Donc, si vous allez dans les lieux, il faut prendre le temps, là, tu sais, de vraiment vivre ce moment-là. Après, il y a l'interactivité. Donc, chaque sculpture robotique a un circuit, donc il y a l'aspect électronique. Il y a un microcontrôleur qui me permet de réaliser, de créer des scénarios d'envolée. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Et grâce à des capteurs qui sont placés dans l'espace, aux différents niveaux et au bistrot, les passants... dans le fond, influence ces envolées ont été programmées. Donc, le tout est relié par un ordinateur.
Donc, c'est une interactivité qui est directe avec les gens qui regardent leur façon de se déplacer ou c'est quoi exactement leur interactivité?
Oui, exact. Oui, vous l'avez bien dit. C'est leur déplacement dans l'espace. Donc, il y a un lien direct avec le mouvement, le déploiement des ailes de ces oies mécaniques.
Super intéressant, mais j'invite les gens qui nous écoutent à aller visiter ça. C'est au Grand Théâtre de Québec, c'est précisément au studio TELUS. Et ben, il faut le dire, c'est gratuit aussi. Hein. On a accès à ce studio-là gratuitement. Évidemment, si vous allez au Grand Théâtre de Québec, ça vous donne aussi un prétexte pour aller voir cette œuvre qui est incroyable avec Envolée lyrique, c'est de Philomène Lompré, dont j'avais le plaisir de jaser à travers un appel téléphonique. Merci beaucoup, Madame Lompré.
Je vous remercie.
Au
merci et au plaisir de vous voir au Grand Théâtre.
Tout à fait. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Il pleut sur ton corps des larmes de joie qui me donnent envie de croire. Toi aussi, tu crois encore qu'il n'y a rien de plus grand que d'être ami. L'idée d'être bien me ramène à nous. C'était beau hier quand on parlait d'être. Est une maison où rien ne serait plus grand que d'être ami. Mais j'espère que t'espères qu'on sera ceux qui l'auront fait. Ils pourront parler d'amour amoureux. Moi je parlerai de nous. On vieillira à peine en se courbant le dos. et on pleurera, on pleurera, on pleurera. On pleurera ensemble. Des larmes de joie. Et on pleurera, on pleurera, on pleurera, on pleurera ensemble. Des larmes de joie.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent toutes nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Vous êtes de retour à Chiz 94.3. Vous écoutez l'émission Chérie, j'arrive, et c'est l'heure de la chronique cinémaniaque avec nul autre que Nathan Murray. Salut Nathan, ça va?
Salut, oui, ça va bien, toi Félix?
Oui, ça va super. Très content aujourd'hui, encore une fois, qu'on se parle de cinéma. On va faire un retour sur Toronto dont on a parlé la semaine passée. On va parler des films de l'automne, mais avant ça, tu veux me parler d'un film qui s'appelle Best-seller.
Oui, critique, un film qui a pris l'affiche au Québec vendredi dernier. On va être franc, là, fin septembre, début octobre, on est dans un creux de vague.
D'accord.
Donc, on a beaucoup de films intéressants qui sortaient au milieu, au début du mois. Et ensuite, on va recommencer surtout autour du 8 octobre avec les gros canons habituels de la mi-saison. Mais donc, une comédie dramatique cette fois qui vaut surtout par le duo d'acteurs qui est à l'affiche. On parle d'Aubrey Plaza, dont tu me disais le plus grand bien tout à l'heure pour son rôle dans Parks and Recreation.
Exactement.
Et de Michael Caine, donc immense acteur britannique, mieux connu par notre génération pour son rôle d'Alfred dans les Batman de Christopher Nolan, mais qui est un immense acteur de répertoire, qui a plus de 80 ans passés, donc renfile, continue toujours de faire des films et livre cette fois une performance d'écrivain tourmenté. Donc, Best Sellers, c'est l'histoire d'une éditrice, donc incarnée par Audrey Plaza, qui a repris la maison d'édition de son père. Et cette maison s'est détournée de la grande littérature pour faire dans le jeune adulte, mais ses ventes plongent parce qu'elle a publié une série de mauvais romans. Elle se demande donc comment je vais faire pour me sortir de cet élément-là. Donc,
comment je peux écrire un best-seller?
Comment je peux trouver quelqu'un qui va m'écrire un best-seller? C'est assez classique comme situation. Mm-hmm. Donc, on a vu ça mille et une fois. Elle, son idée, c'est qu'elle va se tourner vers... Elle se rend compte que l'auteur qui a fait connaître son père, celui qui l'avait découvert et qui l'avait fait connaître au monde, le personnage donc interprété par Michael Caine, est toujours en vie. Et que finalement, dans son contrat, il leur doit un livre. Donc, il a écrit son premier livre. Il avait reçu une avance sur le deuxième qu'il n'a finalement jamais proposé. Elle cherche à le retrouve d'abord, ce qui n'est pas facile. Et c'est un vieil homme, disons, assez difficile d'accès, qui est relativement... qui n'aime pas la compagnie de ses semblables et qui leur fait savoir de façon assez claire... un 12 à la main, généralement.
Ça, c'est clair.
Donc, on voit tout de suite la situation et finalement, elle réussit à le convaincre. Et à partir de là, se noue la relation entre ces deux personnages-là. Mm-hmm. L'écrivain qui propose un nouveau roman, mais qui tient en horreur donc le fait de faire une tournée, de rencontrer des gens et qui, généralement, tourne toutes ses lectures publiques en sorte de freak show. Cette jeune femme-là qui essaye de le convaincre, mais de s'efforcer de lire, de présenter son livre pour augmenter ses ventes et sauver la maison d'édition.
Tout à fait. J'ai envie de te poser la question, quelle est la pertinence ou le charme de ce film-là?
Ben, le charme repose entièrement dans les deux acteurs principaux et la relation qu'ils nouent. Comme je l'ai dit, c'est rien de nouveau. C'est un vieil homme revêche qui est amadoué à la longue par une jeune femme qui, elle aussi, a un caractère assez tranché. Donc, un homme, il répond à toutes les catégories, alcoolique, fumeur invétéré, à moitié mort, littéralement, il chauffe une vieille minoune
des
années... Oui, on est dans le cliché à fond la caisse, mais l'interprétation des deux personnages principaux est excellente. Aubrey Plaza, qui maîtrise très bien le registre comique, qui assume ça tout à fait. Michael Caine aussi, qui le maîtrise étonnamment... pas étonnamment bien, parce que dans sa carrière, il y a quand même eu des... Mais qui est totalement attachant et détestable à la fois dans ce rôle de vieillard-là, qui est quand même assez intéressant. Faut pas tant s'intéresser aux ramifications du scénario, qui sont relativement mineures, mais c'est vraiment l'interprétation des deux personnages. Cette franche comédie au début qui vire un peu vers le mélo, mais le mélo réussit... le mélo réussit à la fin parce que franchement on s'est attaché à ces deux personnages là et c'est dur de pas se faire arracher des larmes dans les dernières scènes par Michael Caine qui est assez exceptionnel. Donc c'est un film sans histoire, un 3 étoiles, mais disons que dans ce 3 étoiles là, on peut en attribuer 4 aux deux interprètes principaux qui sont de grands talents, comme l'offre est relativement mince, pour ne pas dire famélique à cette époque. Ça peut être une bonne option. Donc, c'est un bon film, disons, de fin de soirée.
Oui. On va enchaîner avec ton prochain sujet de la chronique cinémaniaque de cette semaine. Un retour sur le Festival de films de Toronto, le fameux TIFF, comme on l'appelle la semaine dernière.
Ah oui, ce bon vieux TIFF, notre cousin Beauceron.
Se terminait en samedi, en fin de semaine, samedi le 18 septembre. As-tu des surprises? As-tu trouvé des...
Je retiens peut-être deux films dans ceux qui ont été présentés. Le premier, un film de Pablo Larraine, un film donc argentin, d'un réalisateur à qui on doit notamment Jackie avec Natalie Portman, El Club sur des prêtres pédophiles qui vivaient en retraite fermée et qui présente cette fois-ci Spencer sur Lady Di. Les critiques sont vraiment dithyrambiques. Pour ce film-là, il devrait prendre l'affiche en novembre en Amérique du Nord sous toute réserve.
C'est avec Stewart, c'est ça?
C'est avec Kristen Stewart qui donc parvient très bien à faire oublier son début de carrière. J'allais dire calamiteux, mais disons qu'il n'est pas au goût de tout le monde, non pas par sa faute.
C'est ça, on dirait que c'est vraiment ambigu. Là. Soit il y en a qui aiment beaucoup, soit il y en a qui détestent.
C'est ça, mais je faisais pas partie de ceux qui aimaient. Mais en tant qu'actrice, elle s'est beaucoup impliquée dans les films d'auteur. Et cette fois-ci, elle rempile avec un réalisateur relativement jeune, mais qui, ces 10 dernières années, a au moins produit 3-4 chefs-d'œuvre sur 5 films, ce qui est quand même une moyenne totalement acceptable. Et donc, paraît-il que c'est une évocation absolument fascinante de cette solitude, la princesse Diana. Donc, c'est quelques jours avant qu'elle ne quitte, qu'elle divorce Charles, alors qu'elle était dans un souper de famille. Donc, je pense que c'était pour les vacances des fêtes, avec l'entièreté de la famille, de la famille royale. Donc, c'est un peu toute cette souffrance que nous a montré un peu pour une période plus jeune The Crown récemment. Ouais. The Crown récemment. Donc, avec ces personnages-là, on en dit le plus grand bien. Et comme c'est un réalisateur que j'affectionne particulièrement, je l'attends avec assez d'impatience.
D'autres faits saillants de Toronto?
Oui, le prix du public. Donc, Toronto décerne pas de palmarès remis par un jury, mais il y a quelques prix comme ça qui sont remis, dont le prix du public, qui généralement peut être considéré comme un bon indicateur aussi, en tout cas l'un des premiers indicateurs pour les Oscars, The Green Book notamment, qui avait été en nomination et qui avait bien fait là-dessus. Cette fois-ci, c'est Belfast, comme je le disais, un film de Kenneth Branagh à qui on doit le premier Thor, les récentes adaptations d'Agatha Christie aussi, donc Crime de l'Orient Express et Meurtre sur le Nil. Grand acteur shakespearien qui a décidé de tourner un film en noir et blanc sur son enfance à Belfast là, pendant les heures entre protestants et catholiques, le conflit en Irlande du Nord, et qui comme ça filme son quartier d'origine et un peu une histoire qui aurait pu lui arriver enfant. Ça rappelle sans doute de bons ou de mauvais souvenirs à certains auditeurs. Ça ressemble beaucoup dans la forme quand on annonce comme ça, surtout par le choix du noir et blanc, et dans l'histoire qu'on a choisi de raconter, au Roma d'Alfonso Cuarón, ce film interminable en noir et blanc qui avait été présenté sur Netflix et dont j'avais pensé le plus grand mal. Cette fois-ci, sans doute un peu moins aride, peut-être un peu moins drabe, en tout cas on l'espère, puisque le prix du public a tout de même été annoncé, que les critiques laissent envisager quelque chose d'un peu moins mortifère.
On va rester au courant de cette sortie-là qui s'appelle Belfast. On peut passer maintenant au film, les sorties à prévoir pour cet automne. Chaque semaine, évidemment, on parle de M. Villeneuve et de Dune, mais on a d'autres choses aussi à aller voir cet automne.
Oui, sur Dune, un mot, donc il est sorti sur le marché européen. Entre 40 et 45 millions de box-office, ce qui est énorme si on compte que l'Amérique du Nord et la Chine ne font pas encore partie. Donc, le film sort uniquement le 22 octobre. Donc, c'est vraiment de très, très bons chiffres pour ces éléments-là. Sinon, dans les films à venir, en octobre, on attend des gros canons. On a déjà parlé beaucoup de James Bond et Dune, effectivement. Je reviendrai peut-être sur le nouveau Ridley Scott, donc The Last Duel, qu'on a mal reçu généralement, mais qui présente Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer, comme je l'avais déjà évoqué, duquel on peut peut-être s'attendre à quelque chose niveau spectacle, somme toute. Le nouveau Wes Anderson aussi de Friends Dispatch avec la distribution absolument étonnante qui a été peu appréciée lors de sa lancée à Cannes par la presse américaine et par la presse anglophone, mais qui a été très appréciée par les Français qui sont toujours heureux qu'on parle d'eux-mêmes. Peut être très, très intéressant. Et un film québécois très, très intriguant, en tout cas, qui devrait prendre l'affiche aussi à cette période. Évidemment, il suffit que je le dise pour me perdre.
Au niveau des sorties québécoises, il y a vendredi Maria Chapdelaine de Sébastien.
Oui, qu'on attend aussi vraiment avec impatience. Et on y reviendra. Sur ce film québécois. Je vous y reviendrai la semaine prochaine. Je vais le remplacer par deux autres titres.
Oui.
La Palme d'or française, Citane, qui prend l'affiche en octobre. Donc, ce film très, très choquant. Mm-hmm. Et comme ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de super-héros et que les spectateurs s'en ennuyaient peut-être, le nouveau Venom avec Tom Hardy qui doit prendre l'affiche donc aussi au début du mois d'octobre en attendant les prochains Marvel, notamment Spider-Man qui prend l'affiche lui en décembre.
Un autre Spider-Man. Après en avoir fait, je pense qu'il y en a quatre univers différents.
Mais si je me trompe pas, les univers se mélangent dans celui-là.
Il y a le multiverse aussi.
C'est ça, on finit par en perdre son latin, mais il est sympathique. Le dernier, il est attachant.
Okay.
Il est attachant, le dernier Spider-Man. Donc, on imagine que le troisième volet de cette troisième adaptation de Spider-Man va rencontrer son public.
Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'est dans The Avengers, mais là, on parle d'un autre Spider-Man qui se serait fait donner ses pouvoirs par Iron Man. C'était pas trop clair. Là. Moi,
qui est comme son héritier spirituel, là, si on a bien compris la fin du dernier Avengers.
J'aimais mieux la piqûre, la fameuse piqûre dans le laboratoire. Là. C'était,
oui, bon, c'était classique, puis ça faisait la job. Là. Disons qu'on finit par... Mais après 30 films, 25 films, là, l'univers de Marvel, faudrait faire un tour de force pour ne pas se copier soi-même encore et encore.
Tout à fait. Et on a pu finir d'en parler des remakes, des reboots, etc. au cinéma. Mais on va continuer d'en parler de cinéma tous les mercredis à 16h30 avec Nathan Murray à la chronique Cinémaniaque. Merci Nathan pour cette semaine.
Ça fait un très très grand plaisir. Et la semaine prochaine, donc, si je ne suis pas toujours endormi dans la salle, on parlera du Maria Chapdelaine qui sort en fin de semaine.
Oui, tout à fait. À la semaine prochaine.
Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Que tu pourrais faire demain? Je pourrais faire une sieste, ma to-do list, passer le balai. Va appeler ma mère, faire du bénévolat. On va t'y prendre un café, on va t'y prendre un drink. Je pourrais prendre une marche, il fait beau soleil. Sortir dehors, ça me ferait pas tôt. Regarder une série, faire une deuxième. Me couler un bain, me semble je le mérite. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain?
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis maintenant en compagnie de Louis-David Gingras pour sa chronique Artiste de la vie. Salut Louis-David, ça va bien?
Salutations, oui, merci, je vais très bien.
En ce mercredi 22 septembre pour ta chronique, tu as décidé de me parler de la méditation. Tu voulais appeler ça la méditation, un mode de vie, une façon d'être. Et dans cette capsule, tu voulais me parler des mythes principaux qui sont associés autour de la méditation pleine conscience. Mais j'aimerais ça aussi qu'on dresse le chemin qui t'a mené à cette méditation-là, à cette, on parlait hors onde de que c'est un mode de vie. Donc, comment est-ce que t'as commencé à faire de la méditation dans ta vie?
Mais écoute, dans mon cas, c'est arrivé quand j'avais 17 ans, en fait. Des amis me l'ont présenté comme ça, autour d'un feu. C'était comme, ah, ça va t'amener des expériences. Oui, c'est ça. Puis ça t'amène à des expériences de ton être qui vont transformer ton être, en fait. Puis là, j'ai commencé comme ça, mais au début, j'avais l'impression que c'était une pratique que tu devais faire. Je vais ça le faire, mettons, à tous les jours. Fait que là, je disais ça, puis là, je le faisais pas à tous les jours. Mm-hmm. Parce que je le voyais comme si c'était de quoi qui prenait un effort.
Ah, OK.
Puis là, progressivement, j'ai compris qu'en fait, c'est une cessation d'effort. Puis c'est juste d'être présent avec qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Puis là, quand j'ai compris ça, c'est là que la pratique a vraiment commencé. Parce que ça devient pas seulement un moment où tu t'assois à ton coussin.
À te concentrer.
Puis là, tu te concentres sur ta respiration, tu te concentres sur tes émotions, sur ce que tes sens, dans le fond.
Mais tu t'es rendu compte que c'était pas seulement ça.
Ben, c'est que ça s'applique toute ta vie, en fait. Fait que c'est que autant que t'es assis, mais là, après ça, quand tu quittes, puis là, il faut que t'ailles t'occuper de tes enfants, il faut que t'ailles porter tes enfants à l'école, ou il faut que t'ailles t'occuper de toi-même, ou d'un travail, ou peu importe. Bien, tu restes dans cette espèce d'espace-là d'ouverture puis d'écoute, tu sais, puis de vraiment de pas être sur le rat race, je sais pas comment dire ça.
Le rat race, je connais pas cette expression-là.
La course au rat.
Ah, OK, oui, oui,
t'sais,
oui.
C'est
oui,
comme
okay.
Si, au lieu d'être dans un mode automatique puis de juste comme...
La routine, tout ce qui est technique, là.
Ouais, puis suivre comme juste le flow de tes pensées incessantes, bien, t'as plus d'espace. Puis moi, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, quand je me promène dans la ville ou je me promène, peu importe, je me sens disponible. Fait qu'on dirait qu'il y a beaucoup plus d'espace. Puis tantôt, je me promenais dans le coin de l'université, puis je réalisais à quel point c'était tranquille, la vie. T'sais, je me disais, okay, aïe, c'est tranquille. Il y a autant de bruit, mais quand tu n'as pas de chatter dans ta tête, quand tu n'as pas les 1000 voix qui tournent, ben, tu peux clairement réaliser le calme qui est toujours là. Ouais. C'est quand tu as des voix qui tournent sans cesse dans ta tête que là, tu peux pas réaliser à quel point c'est calme.
Mais je veux revenir sur ça parce que moi, mon expérience de la méditation, c'est justement, tu parles de ces pensées-là qui arrivent à ta conscience et tout. Pour moi, la méditation, c'est de se concentrer, comme tu le disais, sur ta respiration, sur tes sensations, puis d'un peu éviter de partir dans plein de directions, de penser à la vaisselle qu'il faut que tu fasses, à ton devoir à remettre, à l'album qu'il faut que tu écoutes. C'est un peu de se couper de tout ça, comme tu disais un peu. Est-ce que tu le vois comme ça aussi?
Ben, comment je le verrais, c'est que tu te bats plus avec ces trucs-là.
Okay, ouais.
Tu les laisses faire ce qu'ils vont faire, puis plus que ça avance, puis plus que tu es dans un état d'ouverture et de... être libre, dans le fond.
Okay.
Ce qui va arriver, c'est que ces pensées-là vont plus te martyriser ou peu importe, avoir une emprise sur toi.
Ouais.
Clairement que tu vas être encore fonctionnel, tu vas encore faire ce que tu as à faire, mais tu seras pas une victime ou un prisonnier de ta vie.
Ouais, tout à
tu
fait.
Vas plus comme être un acteur qui sait quel chapeau mettre à quel moment. Mmh. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Okay. Ouais. Donc, moi, si je t'écoute en ce moment et que je te dis « je veux commencer cette méditation-là », quelle étape devrais-je suivre pour m'y mettre? Tu disais que c'est pas nécessairement de trouver un moment puis de mettre des efforts, c'est plutôt de se déconnecter, mais ça commence comment?
Bien, c'est vraiment juste de prendre des blocs, dans le fond, par jour.
Okay.
Tu prends des petits blocs. Moi, j'ai commencé, en fait, des méditations guidées. C'était très bon pour moi. Je me mettais une petite méditation guidée avec de la musique. Puis tu la suis, tu sais, puis tu essaies de rester focus. Tu peux faire ça à tous les matins, tous les soirs.
Mm-hmm.
Puis c'est déjà un bon début, là.
Ouais.
Puis c'est ça. Ça, je dirais que c'est une bonne place pour commencer quand même, là. Ouais.
Donc, on commence avec ça. Puis j'imagine, toi, c'est, tu disais... T'as pris conscience de ça au tournant à peu près de 17 ans. Donc là, maintenant, avec tout, j'ai envie de dire pas nécessairement des années d'expérience, mais toute cette expérience-là en méditation, comment est-ce que ça a évolué, cette pratique-là?
Ben, écoute, dans mon cas, c'est que ça s'applique dans pas mal toutes mes activités, en fait.
OK.
C'est juste que je garde quand même des moments pour le faire purement juste ça. T'sais, à chaque matin, chaque soir.
Mm-hmm.
Puis dans la journée, quand j'en ai besoin, je prends un moment. Mais dans mon cas, je suis un musicien, puis je suis un sportif aussi. Quand j'escalade des arbres ou je fais des activités qui demandent de la mindfulness, même quand je conduis mon vélo pour venir ici, je suis vraiment focus, là. Puis je focus le plus possible sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis je suis vraiment enraciné dans ma réalité. Autant que je suis... dissocié, je ne suis pas attaché au résultat des choses. C'est comme un équilibre entre être engagé puis être un peu détaché, parce que sinon, si tu es trop engagé, tu souffres parce que la vie est éphémère, puis c'est la mort et la naissance. C'est un cycle. Fait que c'est comme une balance entre les deux. Mais je suis vraiment c'est quoi ta question là?
On se perd un peu, mais admettons, pour revenir à la méditation qui est ton sujet de ta chronique d'aujourd'hui, si on revient à ça, à ta pratique, à toi, comment ça a influencé ta vie, comment tout ça a évolué, là, tu me disais à quel point ça, c'est partout dans ta vie, que c'est pas nécessairement juste une pratique que tu décides de faire, soit deux fois par jour, soit peu importe l'échéance à laquelle tu l'as fait, mais ça l'a impacté ta vie d'une façon que tu réussis peut-être plus facilement à dissocier tout ça. Je te posais des questions par rapport surtout à... on expliquait les étapes à suivre pour commencer à faire ça, commencer à méditer. Tu t'as conseillé les méditations guidées, mais... Justement, après, comment est-ce qu'on augmente la difficulté ou je sais pas comment le dire exactement?
Oui, c'est une bonne piste. En fait, comment qu'on l'applique dans la vie de tous les jours?
Oui, OK.
Ben, c'est dans les petites actions. Fait que, mettons, quand tu brosses les dents, au lieu d'aller sur ton cellulaire, tu pourrais faire juste OK, là, je me focus, je me brosse les dents. Là. Puis là, c'est juste ça que tu fais. Tu sais, tu peux le faire dans les petites activités de même. Fait que moi, c'est ça que je fais dans mes activités. Quand je fais du vélo, je fais du vélo.
C'est intéressant,
je vais marcher, je vais marcher. Quand j'escalade, je suis connecté avec l'activité que tu fais.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'on vit dans un monde où la fameuse expression multitasking est tellement mise de l'avant, puis on veut tellement tout faire puis être productif. Donc toi, pour mieux profiter de tout ça, pour mieux se dissocier aussi, réussir à dissocier, ça serait de se concentrer puis de faire une chose à la fois, finalement.
Ben, une analogie pour ça, c'est que si tu manges un repas puis tu mets toutes tes épices que tu as dans ton garde-manger, ça va pas être super bon. Il faut que tu saches lesquelles mettre ensemble. Fait que dans ce cas-là, t'es mieux d'égoutter une par une, tu sais. Puis moi, c'est comme ça que je vis ma vie, ou j'essaie du moins. C'est vraiment de ralentir le flow, puis juste de vraiment enjoyer les petites choses. Le plus que je peux, au lieu de me précipiter puis d'essayer de tout faire, de manger l'univers en une bouchée, tu sais, je passe une grosse tâche puis ça crée l'indigestion. Grosse indigestion.
C'est une belle métaphore qui nous explique bien ton message. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on y aille en pause publicitaire.
Est-ce qu'on revient après ou c'est la fin?
Non, c'est ça. Ok, c'est ça. La fin de...
ben, je vous aime fort. Puis, ben, écoutez, moi, je dis que c'est une étape à la fois. Faut pas être trop dur avec soi-même. Puis c'est vraiment juste de tout le temps garder cette intention-là profonde dans notre cœur, puis de faire ce qu'on peut à chaque moment. T'sais, à chaque moment, tu peux t'arrêter. T'sais, mettons que tu marches dans la rue, puis là, tout à coup, tu vois que tu agites dans ta tête. Arrête-toi, prends une respiration, puis déjà là, t'as fait une différence dans ta journée.
Mm. Mm. Des leçons de vie incroyables par Louis-David Gingras.
Écoute, merci.
Merci pour ta chronique artiste de la vie de cette semaine. On se revoit mercredi prochain. Merci, Louis-David.
Merci à toi.
Go.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. T'es aux études, à la recherche d'un emploi stimulant et diversifié? Tu veux fusionner études, travail et passion avec une équipe dynamique et sympathique? ADM Sport a besoin de ton talent, ton enthousiasme et ton ambition. Nos passionnés de véhicules récréatifs recherchent des conseillers aux ventes, département des vêtements. On t'offre un salaire compétitif, une prime annuelle, des rabais employés fort intéressants et même une formation à ton arrivée. Joins-toi à la grande famille ADM Sport. Envoie ton CV à ressources.humaines@commercialadmsport.com.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission deux en un, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis en compagnie de Xavier Gagnon pour sa chronique Le son dans le piton. Salut Xavier.
Bonsoir, ça va bien Félix?
Oui, super content de te voir aujourd'hui, ce mercredi. Comme à toutes les semaines, on va parler musique, on va présenter un artiste. Il y a aussi les nominations du gala à disque qui ont été annoncées à partir de ce midi. Et j'ai pas eu le temps d'en parler à date dans l'émission. Donc à la fin de ta chronique, on se fera peut-être un plaisir de surpasser les catégories. En tout cas, j'ai sorti quelques faits saillants. Mais tu voulais me présenter un artiste aujourd'hui qui s'appelle Muddy Monk.
Oui, car un peu le but de ma chronique à chaque semaine, c'est de présenter des artistes sans nécessairement prendre en compte les sorties récentes. Et c'est simplement un musicien que j'écoute ces temps-ci. Il s'agit de Muddy Monk qui est né en Suisse. Et il est vraiment dans la sphère franco, électro, synthwave. Mm-hmm. Il aime ça jouer avec le rétro, mais aussi les sons plus modernes. Et je dirais que cet artiste-là est vraiment capable d'aller chercher le pouvoir du synthétiseur.
Ouh, intéressant. Moi, je ne le connaissais pas de nom, mais là, je l'ai cherché sur la plateforme Apple Music et j'ai vu son palmarès des chansons. Au numéro 1, on a Le Code, une chanson de Mid-Sizer, un featuring avec Bonnie Banane, avec Ichon et justement avec Muddy Monk.
Oui, d'ailleurs, Bonnie Banane qui se retrouve sur l'album de Hubert Lenoir.
Oui, ben, je parlais de Le Code parce que pour moi, c'est un des succès de Mid-Sizer et je savais pas que Muddy Monk faisait partie des collaborations sur ce titre-là. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as découvert?
Pas tout à fait. En fait, Muddy Monk, j'ai découvert d'abord son EP qui est sorti en 2020, Ultra Tape,
oui.
Lors d'une recommandation, je pense, par Spotify ou une séance d'écoute, là, okay. Comme il m'arrive de le faire. Et c'est là, justement, que je me rends compte qu'il est en feat sur plusieurs chansons
que tu connais déjà.
Ouais, qui sont à succès et qu'on entend une fois de temps en temps là, quand on se met à découvrir de la musique. Et on réalise qu'il y a des artistes comme lui qui, une fois qu'on retient le nom, ben on le voit apparaître de plus en plus souvent. Mm-hmm. Et ce qui est agréable avec ce talentueux jeune homme, c'est qu'il est capable vraiment d'aller chercher des sons différents selon ses projets. Alors autant, il a sorti deux nouvelles chansons là, sur un EP qui sont très ballades, qui sont très douces. Et autant que sur ses derniers projets, notamment Ultra Tape, sur lequel je l'ai découvert, on mm-hmm. va chercher vraiment une ambiance planante. J'ai envie de dire que c'est une ambiance spatiale.
Ouh!
Parce que sur le visuel de cette pochette-là, on voit deux mains androïdes se prendre. Mm-hmm. Et il va beaucoup jouer un peu avec l'ambiance, l'esthétique rétro. Autant, je sais pas si on peut parler d'esthétique dans le son.
Ouais, ben j'ai envie de dire même un peu de vaporwaves.
Ouais, c'est ça. C'est vaporeux un peu. on le décrit comme ayant une voix angélique.
Ouh!
Donc, une voix un peu haut perché par moment, mais ouais. aussi capable là, d'aller chercher des émotions en baissant la voix, si on veut. Là. Donc, il est capable d'aller vraiment là, varier aussi là, de la manière qu'il chante.
Mm-hmm.
Quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être plongé dans une bulle.
OK.
C'est comme ça que je le décrirais. Puis, côté musique, là, vraiment la structure dans laquelle il nous plonge, on trouve autant, comme je l'ai mentionné, du gros synthétiseur parce que il a commencé la musique en jouant du piano et il est allé explorer là, de plus en plus ses capacités à force de travailler sur sa musique.
Mm-hmm.
On compte du synthétiseur, mais on a aussi des arrangements là, orchestraux.
On peut y aller peut-être avec une écoute pour que le monde entende ce dont on
ouais,
parle, entende l'artiste.
C'est ça, on écoutera la chanson sur l'album Ultra Tape encore un peu et on pourra justement reparler. Donc c'est même pas un million de vues, même pas un million d'écoutes.
Thank you.
vous êtes de retour à la chronique. Le son dans le piton, et justement, vous écoutiez encore un peu de Muddy Monk. C'est sur le EP Ultra Tape. Il y a une façon assez particulière de poser sa voix sur l'instrumental.
Oui, et trouves-tu qu'il y a une voix angélique?
Oui, c'est peut-être pas angélique, c'est peut-être un peu overhype, comme on va dire, mais
ben, c'est
particulier de poser sa voix vraiment avec un, on dirait presque un petit écho derrière qui concède une... C'est spatial.
C'est ça, c'est que sa voix devient en elle-même un instrument à part entière, ouais. Comme une note de plus sur un piano. Mm-hmm. C'est super intéressant aussi d'écouter ce qu'il y a à dire, parce que c'est souvent des réflexions sur sa vie,
okay.
Des réflexions sur ce qui l'entoure. Là, on parlait de méditation un peu plus tôt dans l'émission. Je crois que Muddy Monk est un adepte de cette pratique.
Ouais.
Et je vous invite honnêtement à aller écouter cet EP-là qui vaut vraiment la peine. Ces 5 chansons sont toutes très bonnes et ça s'écoute d'une file, là, ça s'écoute d'un coup.
Donc voilà pour Muddy Monk, cet artiste suisse,
oui.
Tu me disais, qui vaut la peine d'être écouté. Donc allez voir ça. Muddy Monk qui a sorti aussi, il a sorti un projet en 2018. Donc on va peut-être...
Long Ride en 2018, un album qui l'a mis sur la carte.
Ouais, puis comme tu disais, il a sorti un petit EP de 2 chansons en 2021, donc en juin. Donc on va voir peut-être qu'il s'en vient quelque chose pour fin 2021 ou pour 2022.
Qui sait?
On va y aller en écoute musicale avec une chanson de Impasse sur son album qui est nominé à la disque. Je parle de l'album Élévasion avec 3 I. Ça s'appelle Élévasion, Société Distincte. Cet album qui est sorti c'est sorti 3 fois, c'est ça que j'essaie de dire.
Pourquoi les 3 I? C'est à cause que c'est la 3e édition.
Tout à fait. On y allait au compte-goutte avec des collaborations, entre autres avec Dramatique, avec Shreeze, avec plusieurs rappeurs très connus comme White Bee. Il y a Tizo, Joe Rocca qui est sur ce projet-là.
C'est vrai.
Plusieurs collaborations qui valent l'écoute, mais il y a aussi des bars de Impasse qui est c'est un OG, l'ancien de Mozaïen, qui revient à titre j'ai pas nécessairement envie de dire solo parce qu'il est toujours accompagné, mais qui revient même 20 ans après.
Ouais, pour remettre son point sur la table et dire, regardez, on est encore capable de faire du rap.
On va y aller avec Légendaire, la chanson qui a aussi Loud et Rhymes.
On est parti.
Ok, c'est pas vrai, on va y aller avec Don't Forget, de Dramatique. Légendaire, c'est pas assez cheese.
On top of the world, c'est là qu'on s'est assis. Regarde-nous bien, des Québécois, ça ressemble à ça aussi. Ça sonne comme ça quand la royauté, ça, ça aussi. Ça aussi. C'est juste un rappel. On a fly au-dessus des atomes, des galaxies. Je les entends qui parlent du drone, je les vois pas ici. Moi et Drama dans la zone, c'est pas fini. Can't leave rap alone, the game needs me. Oh voice, yeah. Fuck et battez la galerie, moi c'est pas ça mon but. Je veux la faire tomber, et tous ceux qui sont dessus. On est parti d'en bas, pour régner la vie mondaine. On a gravi des montagnes, regarde-moi faire mon teint. J'ai marché sur des planètes, t'as vu aucun homme y être. On les a mis à plat, pour qu'ils mangent dans nos miettes. You just don't know me yet. Son fluorescent, boom bap au trap, jusqu'à innover tous les fluorescents. Fleurissant dans le béton, l'os, on parle à provoquant. Je connais la route, je peux repartir à zéro comme si je suis Joe Bocan. Les femmes de tes rêves glissent dans mes DM comme un toboggan. Amène le globe, I make it rain, man. Arrête ton camp. Quand 15 ans battle rap, j'étais le premier Freddy Groose. Grey Goose dans le manteau, Fredo Star avec le Yellow Goose. Ces rappeurs à sommeiller, je te vois en train de sommeiller. Je t'ai montré où la sommeiller. T'étais même pas dans le Summer League. California, Sun LA. Quelqu'un appelé le sommelier. Une autre bouteille de Bordeaux. Backstage, Bordello. White Clef, Frisco, en show, bord de l'eau. Les premiers gars de la ville à tourner jusqu'en France. Bordeaux, revenir avec l'euro en show à la prison de Bordeaux. Bars, fallait que je prenne un break, I was bored though. L'oppression fait naître des paroliers, mélodistes. On a rempli des salles avec gang rival et y'a eu zéro beef. Peace, CDP, Nebo, Master B.
dans le stock y'avait Death Row, Master P, Big Pac, J. Esco, Drake, West Coast, Masterpiece. Y'avait nous, nos caps comme un dress code de boîte de nuit.
La dernière heure a passionné,
on est resté passionné.
Suivre nos passionnés,
mais personne nous dépassonné. Forever, forever, forever. La dernière heure a passionné.
Yo, on est resté passionné.
Et ceux qui suivent nos façonnés,
mais personne nous dépassonné.
Number one,
forever,
number one,
forever.
A-R-A-D-I-K-L-E-D en gros. Everyday Mozart, y'a rap véritable, they don't know. J'y vais B-M-A-M, ça finit pas, just let it go. J'aurais pu devenir pasteurisé dans le milk que du lait de goat. Nique tu le corps qu'on parle, c'est Thomas Sankara. C'est l'écriture, c'est de l'or qu'on parle, c'est Thomas Sankara. J'ai du street life impulsif. J'ai sorti fait des mots de ma tête comme dans un freestyle championship. We drop bangers, bitch. Beat rap dangerous shit. OG rap dangerous. Street rap and I'm sick. Mais c'est l'histoire dans un memory card. Never forget a nigga, même mes ennemis best of the card. Can it be ethany every day, je me lève et prie God.
La dernière heure a passionné.
Yo, on est resté passionné.
Et ceux qui suivent nos façonnés,
mais personne nous est passionné.
Number one,
forever.
Number one,
forever.
Number one,
forever.
Number one,
la dernière heure a passionné.
On est resté passionné.
Et ceux qui suivent nos façonnés,
mais personne nous est passionné.
Forever,
forever.
Don't forget,
l'esprit libre, don't forget,
l'équilibre,
sans regret,
tout ce qu'on a fait,
on referait,
best believe,
aucun frein,
sans répit,
comme nos refrains,
c'est nos vies,
le monde répète,
nos mélodies,
on détecte l'énergie,
let it breathe,
now the game dans les veines comme une drogue fort,
try the mountain, it can't hit the mount, rush more,
on se fait apostropher, tous ces trophées, c'est notre sport,
I can't get enough of the love, my brother, c'est notre sort.
Dès que les notes sortent,
rendre le boost et le folklore.
Fuck y'all,
fuck love.
Plus rien à foutre de ton top floor.
Tu vois que c'est évident, il te manque de phosphore. Ma vie te blague de résistance pour ces corps morts.
Now they want more, on le fait pour la family. Le jour où ma fille sera femme, elle lira tous mes textes, elle sera fière.
On a fait des concerts,
on a vu des concerts,
qu'on élève des concerts.
Et c'est comme ça des concerts.
La société,
c'est ça aussi. C'est comme ça que les gars disent ça aussi. C'est comme ça que les gars disent ça aussi.
TB à Mozaïen, c'était imposs et dramatique sur la chanson Don't Forget, sur le projet, sur l'album même, Élévasion Société Distincte, qui est en nomination cette année au Gala de la Disque. Le Gala de la Disque qui va avoir lieu le jour de ma fête.
Le 7 novembre.
Qui, oui, tout à fait. Encore une fois, animé par nul autre que Louis-José Houde. C'est, sauf erreur, son 17e gala de la disque qu'il anime. On va commencer, on va pas y aller avec toutes les nominations. Il y en a beaucoup. Je sais pas si vous savez, il y a 3 galas aussi. Donc, il y a le gala de l'industrie, le premier gala et finalement, gala à disque, le gala télévisé. J'ai un peu scruté avec ma loupe de jeune homme qui découvre aussi des nouveaux artistes à chaque année. Il y en a évidemment qui sont bien connus du public, comme j'ai envie de dire les Cowboys Fringants, que l'an passé sont partis grands gagnants de la disque. On verra qui va pouvoir partir avec le plus de Félix cette année.
Ouais, ce serait pas la disque s'il n'y avait pas les deux frères et les Cowboys Fringants nominés.
Et voilà, on peut commencer par une catégorie dont j'ai envie de dire, c'est un peu la nôtre.
On est friands.
On exe de la crème du rap. On va parler de l'album de l'année niveau rap.
Oui.
J'y vais avec les nommés et après, on débattra sur qui repartira avec le Félix. Donc, il y a Normal de l'Est de Connaisseur Ticazo qui est sorti le 31 décembre 2020. Il y a Grignotine Deluxe de Fouki, dont il y a la chanson Copilote qui est maintenant plus de 1 million d'écoutes sur YouTube. Mais ça doit être plus que ça, évidemment, avec toutes les autres plateformes. Il y a Élévasion, Société Distincte d'Imposte, dont vous venez d'entendre la chanson. Club Mixtape 2020 de Ken Lo, qui revient après avoir gagné le Félix l'an passé pour 5 fois. Et cette brochette d'albums se termine avec Génie en herbe de Corias et Fouki, qui repartira avec la statuette.
Déjà, Fouki a 2 fois plus de chance.
Ouais.
Nominé 2 fois. Je trouve que son dernier projet, Grignotine, n'est pas le projet le plus consistant de Fouki. Pour un album qui parle de bouffe, c'est pas peu dire.
Et c'est vraiment juste un avant-souper. T'sais.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, il faut donner crédit quand crédit est dû. Et la chanson Copilote, oui, Fouki a réussi à la remettre à jour, mais ça reste un single de Jay Scott à la base. Ouais. Et pour cette raison, je crois qu'il y a des artistes dans cette catégorie qui pourraient mériter de repartir avec un Félix autre que Fouki, et même Corias, parce que Génie en herbe, personnellement, pour avoir écouté plusieurs des projets de Fouki et de Corias, le duo est bon, le duo est capable d'être dynamique. On a des chansons très populaires là, sur ce projet-là, donc comme Basilic.
Tout à fait.
Mais au final, c'est pas un album que je réécoute aussi souvent, par exemple, que Club Mixtape 2020 Ken. Parce que Ken Lo, ce qui est intéressant, c'est qu'il va aller chercher des sonorités afro, va aller chercher des sonorités un peu plus garage aussi dans la façon de composer ses sons. Puis ça, je trouve que c'est un album qui pourrait mériter de repartir avec un trophée dans une compétition musicale. Une compétition, plus ou moins, une remise de prix.
T'as dit Basilic, évidemment. On reconnaît le Basilic avec Qualité Motel. C'est pas sur Génie en herbe, mais sur Génie en herbe, il y a beaucoup, c'est Herbe Basilic. Je peux comprendre le lien. Mais il y avait la chanson titre, Génie en herbe. Il y avait Herbogéniste. Et il y avait Benny aussi. Benny qui est probablement le hit de cet album-là. Mais on peut continuer avec Ken Lo aussi, qui revient pour une deuxième année avec, pour une deuxième année, mais est nommé encore une fois cette année. J'ai envie de dire, il y a peut-être moins de chance qu'avec Sainte-Foy, même si Club Mixtape 2020 nous a mis de la musique de club dans nos maisons dans lesquelles on était confinés. Mais moi, j'irais peut-être plus... Évidemment, on a parlé de Fouki tantôt. Moi, Grignotine de Luxe, je pense que c'est un très bon projet. Il y a, entre autres, une chanson qui est nominée aussi pour Chanson de l'année avec Ciel, le featuring avec Alicia Moffett. Donc, Fouki pourrait repartir avec la statuette. Je pense pas que Connaisseur Ticazo va faire l'unanimité auprès du jury.
Je crois pas non plus.
Peut-être Élévasion pour Impost avec toute sa longévité dans le milieu musical, dans le milieu du rap. On parlait de Mosaïen tantôt. On pourrait peut-être penser que Impost va repartir avec le Félix pour cette catégorie-là. Donc, mon choix final s'arrête sur Impost. Et toi?
Je crois bien moi aussi, à cause qu'il est capable d'aller chercher une meilleure variété, autant dans le rap niché que justement un peu plus old school, et d'aller retrouver les personnes qui aiment s'intéresser à des sons qui deviennent des hits.
Tout à fait. Impost qui disait sur l'album de Joe Rocca, Joe Rocca, c'est magie. Mike Chab, c'est magie. On fait disparaître l'énergie négative comme la magie. Pouf. On y va avec la prochaine catégorie qui fait partie de mes faits saillants. Donc, artistes autochtones de l'année. On a Anacnid, Canen, Matthew, Scott Pien Picard et QO52. QO52, on l'avait reçu en studio. Il avait fait un freestyle. Il est très charismatique comme rapper. Je lui souhaite la meilleure des chances. Sinon, je pense que Anacnid a beaucoup de chances de partir avec le Félix.
Sa catégorie de musique, que tu la décrirais comment?
On a beaucoup de choses. On a une femme qui représente l'esprit de l'araignée. Donc, elle met ses pattes un peu partout. Elle va dans le trap. Elle va dans la musique plus traditionnelle autochtone. Elle va dans la pop. On est un peu partout. Elle donne autant en anglais que dans sa langue natale. Donc, Anacnid, une artiste à découvrir si tu ne la connais pas déjà. Je voulais parler, pour la prochaine catégorie, je voulais parler de groupe, et duo de l'année. On est tellement habitué de voir deux frères, les Cowboys Fringants, et maintenant d'accueillir Blue Jeans Bleu. Mais cette année, on a deux nouveaux qui ont marqué, en tout cas qui m'ont marqué en lisant les nominations. On a Command de Bord et Corridor. Corridor qui sont des vétérans de la scène rock, pas rap du tout. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour groupe et duo de l'année, ou duo plutôt. Révélation de l'année, on a Alex Burger, Command de Bord, Cri, Léa Jarry et Thierry Larose. En connais-tu là-dedans?
Oui, Thierry Larose, qui vaut la peine, a été à l'Impérial, justement, juste avant un reconfinement total. C'est vraiment une belle voix, cet artiste-là. Puis, dans ses textes, c'est vraiment capable de rejoindre les gens, je trouve.
Tout à fait. Peut-être que Command de Bord va pouvoir aussi partir avec la statuette. Choix de la critique, album de l'année. On a Louis-Jean Cormier avec Le ciel est au plancher, Antoine Corriveau avec Pissenlit, Ariane Moffat avec Incarnat, Claude Pelgaille avec Notre-Dame et ses douleurs, Vincent Vallière avec Toute beauté n'est pas perdue. Évidemment, là, c'est des artistes qui sont bien établis, peut-être mis à part Antoine Corriveau, mais Louis-Jean Cormier, Ariane Moffat, Claude Pelgaille, Vincent Vallière,
C'est pas la première fois qu'on les voit.
Et voilà, Claude Pelgaille qui est aussi, qui va peut-être être en mesure de gagner un Polaris cette année, on le sait pas, mais Notre-Dame des Sept Douleurs, pour moi, c'est un coup de cœur, donc peut-être que c'est Clobel Gag qui, elle est vraiment, son nom se retrouve dans beaucoup
mais
de catégories.
C'est elle qui a le plus de nominations, autant dans l'industrie là, que côté musique.
Ouais, on va voir, les résultats vont tourner comment pour elle. Sinon, album pop de l'année, je voulais en parler parce que on a deux bands de Québec et on a un band de Montréal qui, pour moi, est un coup de cœur. Donc, je parle de Kinked, de Gab Paquet et de Le Couleur. Donc, Kinked qui sont arrivés avec Migration, un premier album où ils assument leur genre, leur identité sexuelle. Et c'est très beau, c'est très bon aussi. C'est du disco un peu funk avec de la pop actuelle. On entend même un peu de pop and roll, évidemment, Simon Kearney à la réalisation qui donne sa touche à ce projet-là. Le Couleur avec Concorde, Le Couleur qui sont un band assez connu de la scène musicale de Québec et qui sont arrivés, ont décidé de parler du Concorde, de cet avion français qui se rapprochait un peu d'une fusée. Bref, si tu connais pas le Concorde, c'est un avion qui a tué, je pense, c'est 130 personnes à peu près lors d'un simple vol d'après-midi. Mais le Couleur nous met ça en musique d'une façon très charmante. Sinon, évidemment, le séducteur Gab Paquet, le seul et l'unique avec la force des Ross. J'ai bien hâte de voir, ça va être une show de lutte. Il y a Peter aussi avec Super Comédie et on pourra pas s'en passer, on va pas s'en sortir. Il y a Roxane Bruno avec Acrophobie dans cette catégorie-là, album pop de l'année. On va pas passer sur toutes les nominations, évidemment, parce que ça fait beaucoup, mais je sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux dire sur la disque.
Mais écoute, moi j'aurais peut-être un petit jeu à te soumettre. J'ai l'impression dans les albums de l'année, mes deux préférés personnellement, tant qu'à être à la radio et de donner son opinion sur la musique, c'est Notre-Dame des Sept Douleurs de Clopel Gag et Le Ciel est au plancher de Louis-Jean Cormier, qui sont deux artistes établis et qui se compétitionnent très bien. Moi, j'ai envie de te demander, étant donné que dans les deux albums, il y a des thèmes assez différents mais qui finissent par se rejoindre, as-tu un album préféré entre ces deux-là?
Ah ben définitivement Notre-Dame des Sept Douleurs. Je pense qu'il y a aussi une période de vacances qui est associée à ça. Je l'ai écouté beaucoup quand j'allais en Gaspésie et il y a des souvenirs qui sont associés. Puis quoi de mieux pour continuer à écouter un album que d'avoir des souvenirs associés. Souvent, c'est ce qui va faire qu'on va avoir envie d'écouter de la musique. Donc, Notre-Dame des Sept Douleurs, qui il y a aussi un album, un visionnement, un spectacle virtuel qui s'appelle le Spectacle Spectral, qui est réalisé par Laurence Baz, qui vaut la peine. C'est enfantin, mais d'une façon... c'est plus, je veux dire, le personnage enfantin de Clopel Gag qui ressort. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. On a une mise en scène qui est assez éclatée, qui est très colorée, qui est...
À la Clopel Gag, donc.
Oui, puis on s'amuse beaucoup à détruire aussi ce décor-là et je veux pas divulgâcher le spectacle, mais on sert un gâteau et évidemment, tu sais que ce gâteau va se faire détruire et qu'il y a une petite bataille de nourriture, mais ça vaut la peine, le spectacle spectral de Clopel Gag qui, entre autres, se retrouve dans la catégorie spectacle de l'année. Sinon, toi, entre le Le ciel est au plancher, Notre-Dame
entre les deux,
Le
ciel est au plancher de Louis-Jean Cormier, c'est la suite de son autre album, Quand la nuit tombe.
Ouais.
Et j'ai l'impression que parmi ces deux-là, j'ai préféré le premier, Quand la nuit tombe.
Okay.
Le ciel est au plancher, Louis-Jean Cormier va aborder le deuil de son père. Et ça reste une expérience très personnelle qui lui permet de vraiment se délivrer. Et personnellement, j'ai plus connecté avec les textes qui parlent... c'est un peu dark, là, mais Clopel Gag parle un peu plus d'anxiété, de dépression. Et dans ses sons, va réussir à aller... de façon orchestrale, aller chercher des émotions, mais aussi des sons très planants, très... On ne sait pas vers où... c'est difficile de décrire vraiment qu'est-ce que Clopel Gag est capable de nous faire vivre avec sa musique, alors que j'ai l'impression que Louis-Jean Cormier, ça se met mieux en mots, peut-être.
Oui, c'est aussi... c'est plus pas nécessairement facile l'interprétation, c'est toujours un terme spécial à dire de facile d'interpréter, mais c'est peut-être plus direct comme message, tandis que Clo, ça va être un peu plus mis en métaphore, et autant en métaphore textuelle que des suites instrumentales qui sont... qui sont très, très jolies d'écoute. Mm-hmm. On va se le dire, Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est un succès. On va devoir y aller pour la conclusion, Xavier. Merci d'être passé.
Ça me fait plaisir. Écoute, peut-être conclusion, justement, dans Claude Pelgag. Ouais. Ça se transparaît, dans son travail à Claude Pelgag, ça transparaît justement ce que tu expliques dans ses vidéoclips, dans ses spectacles, dans ses sons, dans sa personnalité. Alors, je l'espère qu'elle gagnera cet album.
Tout à fait, on va suivre ça. Et c'est déjà le temps de conclure en ce mercredi 22 septembre. C'était l'émission Chérie, j'arrive. Mon nom est Félix Duchesne et j'animais en compagnie de mon équipe de chroniqueurs. Je viens juste de parler avec Xavier Gagnon pour le retour sur la disque. Et il m'a également aussi présenté Muddy Monk, cet artiste suisse qui vaut la peine d'être découvert. J'ai parlé du Pantoum qui annonce leur spectacle pour octobre. Donc, rapidement, il y a Beat Sexu, il y a Woof Woof Inc., Doudoudou, Zouz, Yoko Feu, Bon Enfant, Ouri. Je vous invite à aller voir ça pour le Pantoum qui est juste en Basse-Ville de Québec. J'ai parlé aussi avec Philomène Lompré, l'artiste qui dévoile une installation d'art robotique interactive. C'est au studio TELUS du Grand Théâtre de Québec. Ça va être disponible jusqu'à la fin décembre. Allez voir ça, soit si vous allez au Grand Théâtre pour une pièce, pour un spectacle, ou simplement pour aller voir cette pièce qui est gratuite d'accès. J'ai parlé aussi avec Nathan Murray pour sa chronique Cinémaniaque. J'ai parlé méditation avec Louis David Gingras pour sa chronique Artistes du monde. On se retrouve demain, comme à l'habitude, à 16h sur les ondes de Chise 94.3. Encore une fois, pour cette émission de Chérie, j'arrive. Comme à chaque jeudi, il va y avoir les chroniques. Tout d'abord, la chronique théâtre de Émilie Rioux. Il va y avoir la chronique littéraire de Alex Tremblay-Lamarche. Et j'ai Jean Gaudreau qui va venir me parler de sa pièce de théâtre. Donc, une entrevue à 16h30. Manquez pas ça. On se retrouve, comme à l'habitude, je l'ai dit, à 16h sur les ondes de Chiz 94.3. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Bye bye.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Mais sans te connaître pas, tu te
comme si rien n'est pas.